bonsoir, rentrée chargée sur les scènes parisiennes.
Pièces détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pièces détachées sur Radio Campus Paris, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Claessen. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Nous vous recevons car vous êtes le metteur en scène d'Un captif amoureux, donc c'est d'après Jean Genet, un spectacle présenté à l'Étoile du Nord en ce moment et ce sera l'objet de notre interview. En chronique, on va parler de You Are My Destiny, Lo Stupro di Lucrezia, une pièce écrite et mise en scène par Angelica Lidl, qui est présentée au Théâtre de l'Odéon dans le cadre du Festival d'automne jusqu'au 14 décembre. Nous parlerons ensuite du Goût du faux et autres chansons de Jeanne Candel avec la compagnie La Vie Brève au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 13 décembre, toujours dans le cadre du Festival d'automne. Et nous terminerons avec La Ville de Martin Krimp dans une mise en scène de Rémi Barcher au Théâtre de la Colline jusqu'au 21 décembre. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Christine, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, ça fait maintenant quelques années que je m'intéresse à une forme spécifique du théâtre, le théâtre documentaire. Il s'agit là d'une forme qui est encore en construction et qui souvent traduit un engagement politique du dramaturge et de l'équipe artistique qui monte un tel spectacle. Les exemples sont nombreux et sont finalement aussi divers que les formes. Nous avons l'engagement fort et subjectif d'un Fausto Paravidino et son Gen 01, qui est consacré aux exactions des forces de l'ordre lors du G8 de 2000 ans en Italie. Nous avons la pièce Verbatim de Miller Rao, Être Radio, on l'avait reçue dans l'émission, qui est recréée scrupuleusement, à partir d'un grand nombre de sources, une émission de la radio-télévision des Mille Collines au Rwanda, seule radio dans l'histoire ayant été condamnée pour crime contre l'humanité. Autant de formes disparates, mais qui posent souvent une question qui, de mon point de vue, est centrale. Où se situe le geste artistique? Quelle est sa nature? J'en viens assez naturellement à ce texte de Jean Genet, que Guillaume Claessen, vous avez décidé d'adapter et de mettre en scène. Le dernier texte du poète, consacré au peuple palestinien, ou plus précisément à sa rencontre avec eux, à son vécu en Palestine, à ses émotions, à son ressenti, à ses rêves. Par ce texte, Jean Genet rappelle avec force le rôle que peut prendre le poète, celui d'un poète du réel. Guillaume Claessen, nous vous avions reçu lors de votre précédente confrontation avec un texte de Jean Genet. Les Bonnes, une pièce de théâtre bien plus classique dans sa forme. Avec Un captif amoureux, est-ce que c'est vous confronter à son écriture plus immédiatement poétique qui vous a d'abord intéressé?
Poétique ou politique?
Un peu des deux, mais Les Bonnes est également politique, pour le coup.
Ça, c'est très... Oui, c'est une question très intéressante, en fait. Genet, dans une interview tardive, définit Les Bonnes comme du théâtre obliquement politique. Je dirais que Le captif amoureux, c'est un texte directement politique et obliquement poétique. C'est-à-dire que, pour revenir à cette idée du théâtre documentaire, l'adaptation en tout cas que je fais du captif amoureux de Jean Genet est effectivement une manière d'aborder le réel, en tout cas le document, ce document qu'est la réalité historique complexe hein, de la Palestine, d'Israël, de la Palestine. Et en fait, ce qui, je trouve, est extrêmement original et intéressant chez Genet, c'est que il a écrit en prison. Il a commencé à écrire en prison. Il a écrit parce qu'il a été en prison, enfermé entre quatre murs, et que sa seule liberté était justement de pouvoir écrire. Donc, c'était une écriture carcérale, même lorsqu'il est sorti de prison juste avant la fin de la guerre. Donc, il a continué d'écrire. Je dirais, mais dans la même configuration mentale, en quelque sorte. Or, après l'écriture de son théâtre, de sa poésie, de tous ses romans subversifs d'après-guerre, il cesse d'écrire, en fait, pendant plus de 10 ans, tombe en dépression et croit ne plus pouvoir écrire. Or, ce qui est intéressant dans cette renaissance de l'écriture, c'est que c'est le réel, le réel qui n'est pas Jean Genet, qui n'est pas issu de l'imaginaire de Jean Genet, qui n'a pas été engendré par son imaginaire monstrueux, c'est ce réel-là qui va l'appeler à écrire. Donc je dirais, ce qui est intéressant dans Le Captif amoureux, c'est que c'est justement quelquefois cette réalité extérieure qui fait écho évidemment à des problématiques intérieures du poète, et là ô combien, enfin on en parlera un peu plus précisément, c'est ce réel-là qui vient tout d'un coup, inspirer en fait cet auteur qui, au départ, n'était inspiré que par ses propres fantasmes, son imaginaire, et tout ce qu'il était intérieurement et profondément, et qui a donné lieu à une littérature absolument magnifique. Et Le Captif amoureux est une rupture et en même temps une continuité dans l'œuvre de Jean Genet. C'est ça.
Et c'est un texte posthume d'ailleurs.
C'est un texte posthume, c'est un texte qu'il voulait publier de son vivant, qu'il avait beaucoup de mal à achever. Et c'est effectivement après sa mort qu'on a publié ce Captif amoureux. Le déclencheur du Captif amoureux, enfin ça c'est très compliqué, dans la biographie de Genet il y a des incertitudes. En gros, si vous voulez, les séjours de Genet au Proche-Orient ont commencé en 70, juste après ce qu'on a appelé le Septembre Noir, donc le massacre des Palestiniens par l'armée jordanienne. Et Genet se rend un mois après en Jordanie. Et là, il rencontre les Palestiniens. Il devait y séjourner 2 semaines. Il y séjourne en fait 6 mois et revient pendant 2 ans là-bas. Ensuite, il est expulsé par les autorités jordaniennes qui voient en lui un trouble fait. Et il revient en fait en 82 à Beyrouth sur l'invitation de Leïla Chaïd, qui est la représentante de l'OLP à Paris, et qui l'invite à Beyrouth en pleine guerre. Et là, il assiste en fait presque en direct au massacre de Sabra et Shatila. Il visite le camp, 3 jours après. Il visite le camp de Shatila et cette visite, après cette visite, il s'enferme 24 heures dans une chambre et décide de repartir à Paris. Et à la suite de cette expérience, traumatisante, en tout cas très troublante, il écrit un texte fameux qui se trouve dans L'ennemi déclaré, texte entretien entre 70 et 83, et ce texte s'appelle 4 heures à Shatila. Et bref, officiellement, c'est-à-dire dans les interviews de Jean Genet, le poète dit qu'il a écrit en fait un captif amoureux, en tout cas il a commencé à écrire un captif amoureux à la suite de cette visite à Shatila. Les biographes, en tout cas son grand biographe, Edmund White, dit que c'est à peu près faux, comme tout ce que dit Jean Genet, il y a toujours une part de faux et de vrai chez lui. En fait, il a écrit son captif amoureux depuis ses premiers séjours, sauf qu'il n'avait pas forcément une idée de ce qu'allait être la structure de ce livre, ce qu'allait être l'intégralité de ce livre. Mais 82, Shatila, ça déclenche un moteur d'écriture encore plus fort.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un texte qui donc est très présent dans le réel, mais le réel historique, non pas le réel de l'intimité comme beaucoup de spectacles, mais qui pose, de mon point de vue, beaucoup de questions de forme. Déjà, comme vous le disiez, Jean Genet a mis beaucoup de temps à trouver avec précision la forme qu'il voulait pour ce texte-là, pour ce vécu qui était le sien. Et donc, mais vous aussi, vous avez décidé derrière de rajouter un geste artistique et donc votre forme, puisque c'est un texte qui n'a pas été écrit pour le plateau.
Oui, il a d'autant pas. Oui. Alors, premièrement, c'est un problème quand on veut mettre en scène des œuvres non théâtrales de Jean Genet. Je remercie les ayants droit de Genet qui m'ont autorisé à le faire. C'est pas évident parce que je crois que c'était pas forcément la volonté de Genet que de voir ces textes non théâtraux adaptés au théâtre. Alors ça c'est une chose. Donc se pose la question ensuite de savoir quoi faire au théâtre de ce texte. Le théâtraliser entre guillemets, c'est-à-dire essayer de créer, je sais pas, à partir de ce récit des situations dites théâtrales m'intéresse assez peu. J'ai voulu en fait, je dirais comme d'habitude lorsqu'on monte un texte de théâtre, être comme disait un philosophe Henri Gouillet, être fidèlement original à l'œuvre, c'est-à-dire être le plus original possible en étant le plus fidèle possible à l'esprit de ce texte. Et l'esprit de ce texte, c'est quoi? Qu'est-ce que moi j'ai retenu de ce texte? C'est la question de Genet qu'il pose tout le temps, c'est pourquoi les Palestiniens sont-ils, après les Black Panthers, venus me chercher? Moi, poète français, homosexuel, de 70 ans, voilà, qui a écrit bon, une œuvre littéraire, mais Genet en a un peu rien à foutre de son œuvre littéraire dans ces années-là. Pourquoi sont-ils venus me chercher? Et alors, il a cette interrogation, et il y a un texte magnifique dans Le Captif amoureux, où il montre que, au fond, les Palestiniens sont venus le chercher parce que, comme lui, ce sont des rêveurs. Et que finalement, son voyage en Palestine, c'est ni plus ni moins que d'accoucher d'un rêve dans le rêve même des Palestiniens. Et les Black Panthers, c'est pareil. Alors, ce rêve n'est pas, le rêve des Palestiniens n'est pas une manière. Donc, vous voyez, le rapport au documentaire ou au réel est extrêmement complexe chez Genet, parce qu'il est toujours entremêlé du rêve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'abandon, comme je vous disais, il y a rupture et continuité, il n'y a pas du tout d'abandon de l'inspiration première de Genet. Sauf que, dit Genet, le réel vient entrer en dialogue avec l'imaginaire. C'est-à-dire l'imaginaire monstrueux, fou de Jean Genet n'est pas du tout mis de côté. Il est simplement, éprouvé par le réel. Donc Genet dit, moi je ne peux pas nier la réalité palestinienne, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Donc il est toujours extrêmement exigeant et rigoureux par rapport à cette réalité socio-historique, mais il continue de rêver. Il continue de rêver, je dirais, il poursuit son rêve grâce à cette réalité. Et il le fait. Pourquoi il rêve grâce à cette réalité ou grâce aux Palestiniens? Parce que les Palestiniens eux-mêmes, dit-il, sont des rêveurs. Alors, resterait encore à définir cette notion de rêve, mais elle est hautement politique en fait.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
No rincón es mágico azar. No rincón es mágico azar.
Y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids quand ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part.
No rincón es mágico azar. No rincón es mágico azar.
Est-ce que les gens naissent égaux?
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
No rincón es mágico azar.
Changer, je dirais les fioritures.
Vous êtes toujours dans Pièces détachées sur Radio Campus Paris. Donc c'est le nouvel album de Trio que vous venez d'entendre. Né quelque part, des reprises de Maxime Le Forestier. C'était donc le morceau Né quelque part. Ce qui ne vous aura pas échappé. Nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Clessen pour parler du spectacle Un captif amoureux d'après Jean Genet. Alors on l'a évoqué précédemment, cette écriture de Genet poétique, politique, extrêmement lyrique également. Donc vous avez fait le choix qu'elle s'incarne par deux comédiens, ce dont on parlera plus tard. Mais moi je me posais cette question de justement comment on s'empare de cette langue et comment vous avez pu dessiner la partition de chacun de ces deux acteurs vis-à-vis de ce texte.
Alors sur la partition, je répondrai à la première question qui est plus facile, la deuxième question qui est plus facile. La première est très difficile évidemment. La deuxième question, oui, concernant la partition du texte. En fait, comme je le disais tout à l'heure, le réel et l'imaginaire sont en dialectique. Allez, employons un gros mot dans cette œuvre de posthume de Genet. Clairement, apparaissent, en tout cas pour moi, hein, c'est la lecture que j'en fais, elle est subjective, deux entités Genet dans le texte, je dirais l'entité céleste de Genet, le grand rêveur qu'il continue d'être, et puis l'entité plus terrienne, plus politique, plus engagée. C'est indissociable et en même temps, on peut aussi les dissocier, quoi, en théorie ou, je dirais, en théâtralité. Hein. Si on entre dans l'adaptation théâtrale du texte, on peut poser cet acte dramaturgique-là, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, m'est venue assez vite l'idée d'avoir deux acteurs et de poser une question au plateau qui est simple. Qu'est-ce que ça veut dire être à deux sur scène? Pas être à deux dans un dialogue théâtral, non, être à deux dans une écriture qui n'est pas théâtrale.
Je dirais même plus être à deux qui font un, enfin qui restent deux et qui font un, et
alors,
même plus.
Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est en fait combien de deux il y a sur scène? Il y en a de multiples, en fait. Il y a une multiplicité d'être à deux sur scène, et ça m'intéressait beaucoup, et de creuser aussi cette relation d'être à deux, c'est-à-dire d'avoir l'intimité du deux. L'intimité du deux. Et c'était pas gagné d'avance parce que ces deux acteurs, Olaf Bennett et Benoît Plouzen-Morvan, ne se connaissaient pas avant de travailler avec moi. Moi, je les connaissais, mais je ne savais pas du tout, et ça, c'est toujours l'alchimie heureuse ou quelquefois malheureuse de la création théâtrale, c'est de savoir comment les acteurs vont s'entendre sur scène. D'ailleurs, deux acteurs qui se connaissent hors de scène ne s'entendent pas forcément sur scène, et inversement, deux acteurs qui ne se connaissent pas peuvent tout d'un coup se révéler être extrêmement fraternels et tendres dans le travail. Ça a été le cas de ces deux acteurs, à ma grande et à mon plus grand bonheur. Et donc voilà, nous avons expérimenté le Genet aérien et le Genet céleste. J'ai donné à Olaf, je dirais, le Genet céleste, puisqu'il est aussi chanteur lyrique et m'intéressait évidemment dans cette écriture, et je répondrai du coup à la première question de cette manière, m'intéressait l'idée que l'écriture, et chez Genet c'est toujours présent depuis le début de son œuvre, si on doit appeler poésie le chant, enfin c'est très grec, c'est-à-dire le poète est politique lorsqu'il sait chanter notre humanité, et chez Genet, lorsqu'il sait chanter notre humanité dite monstrueuse, dite stigmatisée, etc. Donc comment, en fait, Genet se rend utile aux Palestiniens en étant, alors, de manière un peu drôle et prétentieuse, le Homère des Palestiniens, c'est-à-dire celui qui va être, même s'il y en a d'autres, hein, je pense à, évidemment des Palestiniens, à ce grand poète Mahmoud Darwish, mais Genet est un peu comme Mahmoud Darwish, bien qu'étant occidental et français, celui qui va chanter la beauté des Palestiniens. Et c'est une manière, finalement, de lutter aussi contre l'injustice multiple que ce peuple subit. Donc voilà, le Genet terrien et le Genet céleste. Mais quand j'ai dit ça, évidemment, à Benoît et Olaf, je leur ai tout de suite dit qu'il fallait se contredire là-dedans, et que le céleste pouvait être terrien et le terrien pouvait être céleste. Du coup, il n'y avait pas de... Comme toujours chez Genet, on pose une dualité et puis on essaie tout de suite de la contredire. Et donc, donc théâtralement, il faut faire la même chose, je crois. Donc ensuite, comment aborder cette écriture? Bah, c'est bien simple. Au début, les deux acteurs étaient très enthousiastes et en même temps totalement, comment dire...
Effrayés peut-être.
Oui, c'est ça. Ouais. Ils se disaient, comment va-t-on y arriver? Et puis... À force de lecture, on s'est dit, bon, c'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est pas si compliqué que ça si, comme toujours au théâtre, on ne se dit pas que la parole vient à comment dire, comment bien exprimer la chose. On peut faire du théâtre physique en étant vraiment, en s'inscrivant totalement. Je dirais dans la parole théâtrale ou dans la parole poétique et je dirais plus on est inspiré par cette parole, moins on essaye de divertir le spectateur en lui faisant croire qu'on l'a dit en faisant plein de choses tout autour sans finalement la faire exister, et plus on va être physique, plus on va être physique, et plus de la parole va naître le chant, de la parole va naître la danse, de la parole va naître toutes les formes de transgression jouissive que le théâtre peut apporter, quoi. En tout cas, quand on fait du théâtre dit de texte, on peut être aussi dans un théâtre très physique, et c'est ce que moi j'ai souhaité, c'est-à-dire un théâtre physique mais qui fasse entendre physiquement cette parole. Qui reste poétique, quelquefois très obscur, mais au moins les comédiens sont là pour la défendre et s'y engagent totalement dedans. Enfin, je crois.
Oui, moi j'ai beaucoup. C'est assez singulier en fait. On entend très fort le texte de Genet, et pourtant j'ai eu le sentiment qu'il y avait une volonté de votre part dans la mise en scène, également dans l'interprétation des deux comédiens, d'une certaine forme d'onirisme. Comme si le pas de côté artistique était dans quelque chose, vaporé, pas vraiment le terme, mais vraiment quelque chose d'assez onirique, une distanciation qui serait vraiment par le rêve. Et que c'était ça, la volonté de mise en scène qui était la vôtre au moment de l'arrivée sur le plateau des deux comédiens.
Encore une fois, j'ai l'impression, moi, d'être très proche de Genet au théâtre. En tout cas, j'essaye de l'être, c'est-à-dire... Il rêve dans le rêve, à l'intérieur du rêve des Palestiniens. Moi, j'ai essayé modestement ou immodestement de rêver à l'intérieur du rêve de Genet, qui rêve à l'intérieur du rêve des Palestiniens. Enfin, c'est-à-dire de...
Et nous rêvons à l'intérieur du rêve de Guillaume Kessen.
Oui, de construire un troisième rêve, quoi. C'est-à-dire, il reste baroque, et moi, j'aime le baroque, je crois, au théâtre. En tout cas, j'aime le baroque de Genet. Du coup, j'essaye de l'investir de cette manière.
Mais c'est un baroque sobre, c'est ça qui...
Oui.
En tout cas, dans votre mise en scène, moi, c'est ça que je retiens. À la fois, effectivement, je me suis fait cette réflexion, notamment pour... la partition de Olaf, qui est très très expressif, qui a quelque chose de vraiment baroque, et en même temps, comme finalement la scène est très dépouillée, les lumières sont douces, enfin voilà, donc c'est une sorte d'antinomie, mais enfin cette expression, mais c'est du baroque sobre, quoi.
Et cette antinomie en fait me va entièrement et correspond, je crois, en fait au baroque sobre, au baroque je dirais pas inhibé, mais au baroque, comment on pourrait dire ?
En retenue, peut-être.
Retenue de Jean Genet par rapport au captif amoureux. Et c'est bien là la singularité de cette dernière œuvre de Genet. Avant, il n'y avait que son imaginaire. Et dit-il, il n'y avait aucune limite à son imaginaire. Là, il est confronté quand même à la réalité palestinienne, c'est-à-dire à des gens qui souffrent, à des gens qui se battent, à des gens qui portent un combat, quoi. Il ne peut pas faire, je dirais, n'importe quoi avec son imaginaire, même si son imaginaire, il le met en liberté, mais il le met en liberté à partir d'une réalité. Donc du coup, c'est un imaginaire qui reste baroque, mais un baroque qui est effectivement limité par cette réalité-là. Pour justement intégrer cette réalité-là, parce que cette réalité-là aussi intègre son propre baroque à lui, Jean Genet. Et du coup, ça donne un baroque dans l'écriture qui est autre que Notre-Dame des Fleurs, qui est autre que, je ne sais pas moi, les paravents, le balcon, etc. Et je ne peux pas, moi, théâtralement, adapter Le Captif Amoureux comme j'ai pu, par exemple, adapter Les Bonnes. Ça ne peut pas être la même chose. Les Bonnes, j'avais déployé effectivement tout le baroque illimité, je dirais, de Genet. Là, attention, puis en plus, on est confronté, moi j'ai dû évidemment m'y atteler, c'est-à-dire qu'en montant Le Captif Amoureux, on s'intéresse à Genet, mais aussi à la Palestine, quoi. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire si complexe, tellement aussi, je dirais, minée par l'actualité. C'est-à-dire qu'elle est... Et alors comment comment, justement, on parlait de théâtre documentaire, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce captif amoureux, ce que ça me permet de faire en termes de gestes théâtrales, c'est de poétiser une réalité qui est tout sauf poétique d'habitude. C'est-à-dire que dans le monde médiatique, on ne parle jamais de manière poétique de la Palestine, et pour cause, mais le poétique ne veut pas dire qu'on efface la douleur, qu'on efface la violence, qu'on efface la barbarie. C'est juste qu'on trouve, évidemment, grâce à Genet, une écriture pour évoquer poétiquement cette réalité terrible, quoi.
Le faire maintenant, est-ce que c'est... Enfin, j'avais envie de dire, pas, du fait du contexte en Palestine, mais ce contexte en Palestine est quand même depuis fort longtemps, si ce n'est toujours...
C'est la guerre de 100 ans.
Voilà, cruellement brûlant. Mais le faire maintenant, enfin, avec vraiment tout ce qui peut se passer maintenant, c'est quelque chose que vous auriez pu faire il y a 5 ans ou dans 5 ans, ou c'est quelque chose... Enfin, ce geste que vous avez eu vers le captif amoureux parmi tous les autres textes de Genet, c'est quelque chose qui vous a paru comme une urgence de le faire à présent ?
Oui, ce qui me paraît urgent, en tout cas, de faire à présent, c'est d'essayer de surmonter ce qu'un intellectuel libanais appelle la fracture imaginaire entre l'Orient et l'Occident. Et je crois que plus le monde oriental et occidental est violent, intolérant, plus il est important pour nous artistes de surmonter cette fracture imaginaire entre Orient et Occident. Et du coup, c'est vrai que de parler des Palestiniens à la manière de Jean Genet dans cette poésie, je trouve que ça décale les choses de manière saine, quoi. Ensuite, moi, j'ai vraiment pris un parti dans le montage du texte que j'ai fait. J'ai pas pris effectivement les textes les plus, je dirais, polémiques. Hein, j'ai pas sur cette question-là. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement, d'avoir vraiment un regard poétique et théâtral qui nous embarque loin, je dirais, du journal télé sur la Palestine. Et d'ailleurs, je travaille en collaboration avec un photographe d'origine palestinienne qui s'appelle Raed Bawaya, dont l'exposition commence mercredi prochain et que je salue.
À la Maison européenne de la photographie.
Voilà, qui a un talent immense et qui est un photographe qui fait des photos en noir et blanc et pas du tout de la guerre, en fait. Il fait des photos des Palestiniens, ça a été la première partie de son travail, puisqu'il vivait en Palestine, en Cisjordanie. En fait, il fait des photos, notamment des Palestiniens, des photos en noir et blanc qui les montrent dans... Comment pourrait-on dire, dans l'espace un peu d'enfermement dans lequel ils sont. Parce qu'il faut bien le dire, effectivement, vivre en Cisjordanie notamment, ou à Gaza, c'est vivre dans une sorte, là on rejoint Jean Genet, dans une sorte de prison. C'est-à-dire qu'il y a une liberté de déplacement qui est extrêmement limitée, qui est extrêmement contrainte. Et lui d'ailleurs, maintenant, vit en France, et pour des raisons aussi de besoin de vivre de vivre libre, de pouvoir se déplacer un peu comme il veut, etc. Mais donc la photographie par exemple de Raed faisait totalement écho à l'écriture de Genet et me permettait aussi d'aborder cette question palestinienne. Par exemple, Raed déteste être le photographe palestinien de service qu'on va tout d'un coup mettre sur une petite scène pour avoir bonne conscience, quoi, par rapport à la cause palestinienne. Il déteste ça, parce que c'est avant tout un artiste, et avant d'être, je dirais, un militant de la cause palestinienne. Et je dirais, là, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aborder cette question avec Genet, en faisant le montage que j'ai fait, sous cet angle, quoi. Et qu'est-ce que ça nous... Et du coup, je crois qu'on parle de la Palestine, mais on parle évidemment, à mon avis, de manière plus universelle, de l'abandon, c'est-à-dire Genet a été abandonné, il s'est senti adopté par les Palestiniens, il a même cru pendant 24 heures avoir trouvé une mère plus jeune que lui, un texte fabuleux, hein, c'est la mère d'Amza, et je crois au fond que ce texte parle de l'abandon individuel et de l'abandon collectif, c'est-à-dire comment un peuple peut se trouver abandonné par ce qu'on appelle la communauté des nations, hein, qui porte quelquefois assez mal son nom. Et ça parle de ça, en fait, ce texte. Donc, finalement, on y retrouve notre présent, même si c'est un texte qui a été écrit, finalement, il y a assez longtemps, c'est-à-dire des années 70 au début des années 80.
Moi, ce que je trouve assez singulier, là, on en parlait, c'est que c'est un sujet, effectivement, qui est beaucoup traité. La question palestinienne est beaucoup traitée dans les médias, et c'est toujours sous un angle qui est très déshumanisé. finalement, soit on cantonne les Palestiniens à une figure de victime, vous parliez pour le photographe qui cantonnait une fonction de témoignage, et là, aussi bien le texte de Genet présente quelque chose de très humain, présente vraiment des individus qui sont incarnés, et vous, de votre côté, j'ai eu le sentiment que vous souhaitiez aller encore plus loin dans cette dimension très humaine, dans une double incarnation, et que vos comédiens incarnaient à la fois les Palestiniens décrits par Genet, et d'une certaine manière, un peu en filigrane également, Genet lui-même. Vous nous présentiez Jean Genet sur le plateau, qui lui, par son écriture et donc par la voix des comédiens, présente d'autres êtres humains. C'était une volonté ou c'est arrivé progressivement? Alors c'est simplement moi, dans ma perception de ce texte et de votre mise en scène.
Oh non, mais je pense que quand on met un grand poète comme Genet sur un terrain aussi politique et miné que la Palestine, on a des vertiges d'originalité, quoi. C'est-à-dire que contrairement à un journaliste qui enquêterait sur place, lui il y va avec tout son cœur et rien que son cœur en fait. Ce qu'il dit c'est qu'il est juste tombé amoureux des Palestiniens. Point barre. Donc c'est une déclaration d'amour, hein, ce texte, ni plus ni moins. Ensuite, c'est politique par la force des choses, mais il est avant tout dans un éloge amoureux. Ça s'appelle un captif amoureux. Il est captif. Il est captif non pas à cause de la violence qu'il y a là-bas, mais à cause de l'amour qu'il ressent pour eux et de l'amour sans doute qu'il reçoit et qu'il n'a jamais ressenti de cette manière. C'est pour ça que il part 2 semaines, en fait, il reste six mois là-bas. Et ce qui est magnifique quand on connaît un peu la vie de Genet, c'est de se rendre compte que effectivement cet homme qui a la haine de la France, parce que la France symbolise les parents qui l'ont abandonné, découvre en Palestine effectivement une nouvelle matrice, une nouvelle patrie peut-être, bien que ce peuple-là n'ait plus vraiment de patrie et qu'il soit aussi lui-même abandonné. Alors tout ça est étrange, c'est-à-dire qu'il y a une adoption qui se fait par un peuple abandonné. Voilà, c'est un poète un peu abandonné, adopté par un peuple lui-même abandonné. Mais c'est évidemment pour ça qu'il se sent adopté par ce peuple. Tout ça est très, très fou, en fait. C'est assez vertigineux, en fait. Quand on entre dans cette œuvre, dans ce captif amoureux, en fait, on a des vertiges. Donc c'est ces vertiges-là qu'il faut arriver, c'est cette beauté-là, cette beauté humaine et poétique qu'il faut arriver absolument, en fait, sur un plateau de théâtre à donner, en fait. Et c'est pour ça que le travail avec les acteurs s'est fait dans la plus grande liberté et la plus grande confiance, en fait. Ça n'aurait pas été possible si on ne s'était pas aussi bien entendu, en fait. Ouais.
Par rapport au travail de corps, qui est très présent et très intéressant, justement, enfin, parce que c'est difficile, en fait, de décrire cette mise en scène, dans le sens où il se passe... le texte est déjà très, très fort, il se passe plein de choses à des niveaux de dualité, comme on le disait, il y a des dialectiques qui ne cessent de se mettre en place. On n'a pas dit non plus, mais vous utilisez la projection. On parlait de ces photos, mais on n'a peut-être pas assez précisé qu'il y en a qui sont projetées pendant le spectacle. Il y a également des repères historiques que vous diffusez à l'intention des spectateurs et qui, je pense, sont tout à fait nécessaires. De même que la feuille de salle qui retrace un petit peu ces grandes lignes pas forcément très connues de l'histoire des Palestiniens. Il y a ce chant et il y a ce corps. Voilà, moi, le corps m'a énormément intéressée également dans cette mise en scène. Et c'est ce rapport entre ces deux soi-même, qui sont deux mais qui sont un, et même jusqu'à une certaine tension sexuelle. Alors, est-ce que c'est moi qui suis partie du fait de l'odeur de soufre qui accompagne le nom de Jean Genet, mais il y avait quelque chose de très beau, à la fois effectivement dans une sorte d'érotisme qui pouvait être un érotisme amoureux entre deux hommes, mais même quand l'un des hommes devient la mère, enfin il y avait quelque chose d'un érotisme, je trouvais assez curieux et qui m'est jamais apparu comme gênant, en fait. Et même si ça pouvait pourtant se passer entre enfin à un moment quand il y a cette mère de Hamza, j'ai même enfin qui lui apporte le café la nuit, enfin je sais pas moi, je me suis mise vraiment à délirer, mais je trouvais qu'il y avait une sorte d'érotisme et qu'on retrouvait dans le corps. Donc du coup voilà, je me posais des questions par rapport à ça.
Bah la question en fait quand on lit un peu Genet et quand on aborde cette dernière œuvre, la question qu'on se pose quand même, c'est la question de que devient l'homosexualité de Genet dans Le Captif amoureux. Puisqu'elle est si présente, je dirais si présente dans tout le reste de son œuvre. Faut savoir que en tout cas c'est ce que disent les grands critiques et connaisseurs de Genet, c'est que Genet est quand même le premier auteur à avoir parlé directement de l'homosexualité sans se cacher. Hein, pensons à Proust, Marcel est hétérosexuel, bien qu'il s'intéresse grandement à l'homosexualité, il reste quand même hétérosexuel. Genet, il n'en a absolument rien à faire, en fait, hein, évidemment, puisque sa marginalité lui permet d'assumer son homosexualité, et son homosexualité est une des choses qui fait la force aussi de son écriture et de la subversion de son écriture. Mais Le Captif amoureux n'est pas du tout Notre-Dame des Fleurs, n'est pas du tout tout ce qu'on a pu lire, Le Condamné à mort, etc. Donc du coup, qu'est-ce que ça devient ? Eh bien, on pourrait dire, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai fait, c'est que c'est présent sans être directement présent. Et donc du coup, théâtralement, comment on s'y prend ? J'ai essayé de ne jamais, évidemment, en parler directement aux comédiens, mais juste de les amener vers cette tendresse de plateau, vers cette confiance physique entre eux, ces deux acteurs qui ont une confiance et une fraternité, une tendresse l'un pour l'autre. On travaille sur la tendresse de deux acteurs. Et ben quand on travaille sur la tendresse de deux acteurs, lorsqu'ils jouent des textes qui parlent du rapport entre Genet et cette mère palestinienne fantasmée comme la mère du poète, il y a quelque chose qui va devenir de manière suggérée, implicite, comme le spectateur veut le voir, après tout, homosexuel. Mais alors, du coup, c'est étrange, quoi. C'est un homme qui joue la mère de Genet, Genet qui est joué par un autre homme, et ça se touche, et en même temps, ça s'étouffe, et en même temps, bon, bah voilà. Ça, c'est les ambiguïtés, moi, que j'adore dans l'écriture de Genet, et que j'essaye, à mon niveau de metteur en scène, de rendre sensible et charnel sur le plateau.
Mais ça se sent très bien, en tout cas, moi, je l'ai senti. Xavier, une dernière question, peut-être ?
Après les bonnes, et donc maintenant avec Le Captif amoureux, est-ce que vous pensez que vous avez fait le tour de l'écriture de Jean Genet, Guillaume Clessen ? Non, est-ce qu'on peut s'attendre à vous inviter à nouveau dans l'émission pour parler d'un nouveau texte de Jean Genet que vous auriez monté ?
Écoutez, il y aura toujours en tout cas, si la vie me prête longue vie, pour pas dire si Dieu me prête longue vie parce que j'y crois pas, mais si la vie me prête longue vie, il y aura toujours un Genet, dans ma tête, quoi. Il y aura toujours un. Il y a des choses tellement magnifiques. Ah, oh là là. Bon, non, j'ai absolument rien épuisé de Jean Genet au théâtre.
En tout cas, vous pouvez vous rendre compte, chers auditeurs, de l'adaptation qu'a fait Guillaume Clessen de ce Captif amoureux. C'est une pièce qui nous a beaucoup touchés avec Xavier et s'est présentée au Théâtre de l'Étoile du Nord jusqu'au 13 décembre. Merci beaucoup, Guillaume Clessen.
Merci à vous, merci de votre invitation. Au revoir.
Question d'histoire d'abord, où est la Palestine ? Sous quelle beauté étoilée, derrière quel barbelé ? Sous quel champ de ruines ?
Question d'histoire encore, combien de victimes ? Combien de milliers d'enfants dans les décombres des camps ? Deviendront combattants ?
J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi.
Question de géographie, où est la Kanaki ? Combien de flics, de soldats pour tenir Nouméa ? Pour flinguer et
Loire, combien de petits blancs, de colons arrogants se partagent la terre, et combien de misère pour le peuple kanak, combien de coups de matraque,
j'en sais rien, je donne ma langue au chagrin, si tu sais toi. Souffle-moi. Question de sport qui détiendra le record et restera vivant, libre et innocent. Derrière les barreaux.
20 ans pour Othello, autant pour Mandela. Combien dehors la loi, chez ces petits juges en bois, dont on fait les salauds.
J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin, si tu sais toi, souffle-moi.
Question science et nature, ou balancer ses ordures. Aller à la Vologne, ces chiens qui assassinent, ces rats qui emprisonnent.
Question de littérature, qui a écrit que les hommes naissaient libres, égaux, libres mais dans le troupeau,
égaux devant les bourreaux. J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin, si tu sais toi, souffle-moi. J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin, si tu sais toi, souffre-moi. Souffre-moi. Souffre-moi.
Toujours dans Pièces détachées sur Radio Campus Paris, c'était Trivial poursuite de Trio. Tout de suite, le tour de table de l'actualité théâtrale.
Il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Alors, ce soir, nous allons parler de You Are My Destiny, l'ostupro di Lucrezia. C'est une création de Angelica Lidl. Nous parlerons ensuite du Goût du Faux et autres chansons de Jeanne Candel et la compagnie La Vie Brève. Et nous conclurons avec La Ville de Martin Krimp dans une mise en scène de Rémi Barcher. Alors, on commence tout de suite avec Angelica Lidl, brûlante espagnole entre toutes, qui s'attaque cette fois au viol de Lucrèce, brûlant texte entre tous, texte qui a traversé la poésie depuis des siècles de Tite-Live à Shakespeare. Alors, évidemment, comme on peut s'y attendre de sa part, Lidl évacue tout de suite le politiquement correct et pourrait bien faire ruer dans les brancards. Parce que ce qui a mené sa quête avec ce viol de Lucrèce, c'est de chercher à comprendre Tarquin, c'est-à-dire le violeur. On entend répéter plusieurs fois dans la pièce « Le seul qui ait parlé d'amour, c'est le violeur, c'est Tarquin ». Forcément, ce sont des mots qui résonnent dans notre tête d'une façon toute spéciale. De même, d'ailleurs, je trouve que ce compagnonnage qui lie Angelica Lidl et le théâtre de l'Odéon, qui est déjà un hiatus en soi, et que je trouve des plus intéressants. Alors, on est donc dans ce théâtre à l'italienne, tout de rouge et d'or, du 6e arrondissement de Paris, et on fait face à un décor imposant qui est une reproduction du Palais des Doges de Venise, où elle fut en visite, et où, nous dit-elle, à l'entrée du spectacle, elle fut humiliée à l'été 2013. Et moi, cette frontalité de l'édifice qui, d'un coup, revêt un caractère religieux, m'a vraiment fait penser au mystère des Moyen-Âge tel qu'il se déroulait sur les parvis des cathédrales. Et cette religiosité, de toute façon, elle est présente partout dans cette création, que ce soit dans les gestes des mains des interprètes qui sont constamment dirigés vers le ciel, dans ces costumes. On a des tenues noires avec, je sais pas comment décrire ça précisément, des sortes de robes noires avec des petits boutons et des grands chapeaux, enfin un peu, enfin vraiment comme des sortes de duègnes de moines du Moyen-Âge, des scènes bibliques réinterprétées, des cloches d'église qui sonnent à tout va, et même jusque dans des surtitres d'extraits du livre d'Ésaïe. Régulièrement, un chœur arrive sur scène, un chœur de 3 hommes ukrainiens que Lidl avait donc rencontré à Venise lors de son séjour et qui sublime notre oui en chantant a cappella et en costume traditionnel ukrainien la partition de Handel, Lucrezia. On traverse les époques parce que ce dont elle nous parle, Lidl, et qu'elle parvient à faire s'incarner de manière si forte dans la chair, c'est tout à la fois très ancien et très moderne. On est quelque part dans de la transe, du mystique, du divin, du primitif. Elle est là, elle, bien sûr, toujours sur scène, dans une robe de princesse vert d'eau et blouson de cuir, chef d'orchestre de cette séance, chef de son propre orchestre qui est son corps, et accompagnée également d'une autre femme qui est comme son double émacier. C'est une femme très, très, très mince. Et ça dure, voilà, il faut que ça dure. Ça dure plus de 2 heures avec le sentiment qu'elle voudrait que ça ne s'arrête jamais. On a des scènes qui sont tout à la fois vraiment très, très esthétiques et en même temps très puissantes et qui s'étirent, qui s'étirent, qui s'étirent. Et en fait, c'est parce qu'elles s'étirent si longuement que pour ma part, je les ai trouvées libératrices. Lidl s'offre, elle nous offre ses pulsions, sa douleur, son sadisme, une thérapie tout en temps qu'elle recrée une catharsis. Mais elle n'est pas seule sur scène avec son double. Il y a aussi des hommes, une dizaine d'hommes qui vont jouer du tambour jusqu'à l'épuisement, qu'elle alignera plus tard debout contre un mur, juste en appui sur les cuisses, mais vraiment de très 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 longues minutes, peut-être un quart d'heure, jusqu'à ce qu'ils se mettent à gémir de douleur, qui plus tard deviendront lavandières à quatre pattes avec des serpillières et nettoieront le plateau à l'eau. On a aussi des enfants, donc une dizaine également, des mini-hommes qui déambulent en ronde, vêtus de capes vertes, masqués. Des sortes de tableaux vivants qui rappellent Jérôme Bosch, ou alors aussi à un moment une coutume passée ancienne, elle presse du raisin de ses pieds nus sur des petits napperons blancs au sol. Et c'est assez époustouflant. Alors voilà, moi je suis toujours fascinée par rapport à ce que cette femme est capable de convoquer sur un plateau, surtout à des endroits effectivement de douleur et de choses pas très joyeuses. Parfois j'ai pu peut-être trouver quelques inégalités où c'est pas forcément dans la longueur parce que c'est très très long, mais c'était pas forcément parce que c'était long que j'en sortais. C'est juste que je sais pas, il y avait parfois peut-être des choses qui circulaient un peu moins bien, mais en fait c'est tellement pas grave par rapport à ce qu'elle est capable de donner au spectateur. Vraiment, moi je me suis fait cette remarque, je me suis dit mais cette femme elle peut tout faire, là elle est en train de faire ça, mais dans 2 secondes elle pourrait faire complètement autre chose, et dans encore 2 secondes elle pourrait faire autre chose. C'est quelqu'un qui nous mène, qui mène le spectateur vraiment par le bout du nez. Et c'est vraiment, moi je trouve ça fascinant. Et ce qui est très chouette aussi, c'est pour conclure, c'est qu'après tant de douleurs, on a le droit à un salut qui est très très long, très très joyeux, qui nous fait entendre le tube de Paul Anka, You Are My Destiny, donc, qui est également le titre du spectacle, et dans lequel une sorte d'énorme voiture descend du ciel, recouverte, enfin des cintres, mais du ciel donc, puisqu'on est au théâtre, recouverte d'un lion ailé, saignant, et tous les acteurs arrivent sur scène et sont heureux. Et ça, c'est magnifique à recevoir comme spectateur, après toutes ces traversées douloureuses, de les voir heureux, heureux d'être ensemble, travailler avec plaisir, avec la douleur. Et ça, voilà, bon, j'ai trouvé ça très très fort. Et c'est donc au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 14 décembre. Tout de suite, nous passons au Goût du faux et autres chansons, Xavier.
Oui, tout à fait. Bah, il est finalement assez singulier de ressentir très profondément, après la découverte d'un spectacle, que les artistes qui nous l'ont présenté ont souhaité avec force faire du théâtre. Un geste réel d'action vers le théâtre. C'est ce qui m'a frappé très fort après cette découverte pour moi du travail de Jeanne Candel et la compagnie La Vie Brève. Dans la coupole du théâtre de la Cité Internationale, le plateau semble presque nu lorsqu'un tableau flamand, apparemment sans importance, prend vie devant nous. Il serait réducteur et peut-être un peu sot de résumer ce qui nous sera présenté en une série de scénettes vives, parfois drôles, souvent touchantes, intrigantes et étranges. Ce tableau qui s'anime, cet écrivain qui n'écrit plus et qui ne sait plus qu'être seul, ces 2 astronautes seuls dans le vide de l'espace, autant de personnages qui m'ont semblé interroger profondément la question de l'identité et du rapport à l'autre, et par là même, celle de nos origines. Ils sont fréquents les spectacles qui se nourrissent du réel et qui s'écrivent au fil des répétitions. Mais il m'a semblé déceler dans le naturel du texte de ce Goût du faux une profondeur qui est bien plus grande que celle, par exemple, des Chiens de Navarre. Jeanne Candel et ses comédiens nous font rire, naturellement, mais avec une grande virtuosité. Chacune des séquences courtes ou longues qui se succèdent sous nos yeux déploie, de mon point de vue, un onirisme. parfois léger, parfois profond, mais très souvent inattendu. Et c'est cet onirisme qui apporte une grande profondeur à ces tableaux très étranges. Car quand l'absurde survient, qu'il s'agisse d'une éruption d'Elvis ou d'une sarabande d'astronautes, ben cette touche de rêve nous emporte. Et nous rions avec les comédiens, nous rions avec les personnages, et à aucun moment contre eux. C'est un spectacle qui aime ces personnages et qui veut nous communiquer cela. Et une telle volonté, par définition, nécessite une absence totale de cynisme. Et un abandon de toute l'équipe du spectacle, un abandon à la bienveillance des spectateurs. De mon point de vue, donc, c'est un pari réussi, car ce goût du fou nous emporte et nous vivons au rythme d'une rêverie.
Oui, alors moi j'ai vu ce spectacle aussi, j'avais été vraiment très très touchée et séduite par le Crocodile Trompeur qui avait été présenté l'année dernière, notamment au Bouffe du Nord. Et donc j'attendais beaucoup de cette nouvelle création de Jeanne Candel et je dois dire que je n'y ai pas retrouvé forcément ce qui avait pu autant m'enchanter avec le Crocodile Trompeur. C'est très bien fait, enfin, vraiment moi je trouve ça très bien fait, très inventif, il y a des surprises incroyables, elle travaille vraiment beaucoup. Bah, déjà elle travaille avec sa troupe de comédiens et ça effectivement ça se sent. Et on sent que potentiellement ils peuvent beaucoup s'amuser. Elle travaille avec l'improvisation principalement, et donc il y a des choses incroyables qui survivent. Cette femme qui arrive et qui se crée des gants en bleu avec de la peinture, cet autre qui va faire des glaces en s'arrachant les yeux. Et voilà, donc il y a des choses que j'ai trouvées vraiment très malignes, très inventives. Enfin, tout est bien fait et bien construit, mais il m'a manqué en fait la sorte de substance, la moelle en fait, voilà, une sorte de moelle qui me permettait de pouvoir apprécier un tout et non pas des morceaux isolés les uns des autres. Moi j'ai pas réussi à faire le lien de tout ce qui m'était présenté et je peux dire à quel point effectivement les comédiens sont brillants et drôles et bon après voilà, moi je n'ai pas ri mais ça ne m'empêche pas de savourer leur humour, mais en termes de spectacle et en termes de forme finie et aboutie, j'ai pas réussi à saisir.
C'est marrant, voilà. On en parlait en antenne, on avait le même genre de débat il y a quelques mois sur Passim de la compagnie du théâtre du Radeau,
François Tanguy
à Gennevilliers, et les rôles étaient inversés. Et c'était moi qui expliquais qu'il y avait un certain nombre de tableaux qui m'avaient touché, mais que par contre je ne voyais pas de fil conducteur. Je trouve ça assez étonnant, et je pense qu'on en reparlera tous les deux.
Exactement.
Que sur des spectacles qui sont assez lointains, en fait, on se retrouve à front renversé d'un spectacle sur l'autre pour ce qui est de découvrir la colonne vertébrale d'un spectacle. Et c'est assez intriguant et assez étonnant, et ça interroge, je pense, sur ce que nous attendons d'un spectacle qui a une construction singulière.
Exactement. Et bien, si vous êtes pour savoir si vous êtes plus Xavier ou plus Christine, rendez-vous au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 13 décembre. Alors, nous avons une nouvelle avec nous, Margot. Bonsoir Margot.
Bonsoir.
Et bienvenue.
Merci.
Alors Margot, toi tu es allée voir La Ville de Martin Krimp dans une mise en scène de Rémi Barchet. Alors cette ville,
elle est étrange. Pour moi, c'est vraiment le mot-clé du spectacle, un sentiment qui m'a pas quitté du début à la fin. Donc tout commence pourtant dans un cadre tout ce qu'il y a de plus classique. Claire et Christopher sont mariés, ont deux enfants et habitent dans une ravissante maison avec jardin en plein centre-ville. Et donc le soir, quand ils rentrent chez eux, ils se retrouvent et se racontent leur journée. Mais d'emblée, quand on voit la scénographie vraiment d'une simplicité clinique, on se dit tout de suite, ça va déraper. Il va se passer quelque chose dans cet univers beaucoup trop propre et trop parfait. Donc on a un carré blanc au sol sur fond noir avec uniquement une table blanche et deux chaises. Et ce plateau d'une froideur extrême est en fait une page blanche qui permet aux spectateurs de projeter tous les sous-entendus violents du texte de Krimp. Car ici, la violence sourde et l'étrangeté résonnent dès la première scène où le mari et la femme, assis très loin de l'autre de cette grande table, et ça c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le spectacle, les personnages ne se touchent jamais, enfin très très rarement, il y a quelque chose de très très lointain. Et donc ils se racontent leur journée, mais chacun ne semble absolument pas écouter l'autre, ne prêter aucune importance à ce que lui raconte son époux, et nous donne à voir comme deux partitions différentes qui ne vont jamais se rencontrer. ou si ce n'est quand Claire rêve de mettre un sac plastique sur la tête de son mari pour l'étouffer et le faire taire. Et donc plusieurs éléments vont venir perturber la vie en apparence parfaite du couple. Claire fait la connaissance d'un auteur qu'elle admirait depuis longtemps, Christopher est licencié, ou Jenny, leur voisine infirmière plutôt loufoque, fait irruption pour se plaindre du bruit que font leurs enfants, mais aussi pour leur raconter ses visions cauchemardesques de guerre totale. La scène en question, dans laquelle cette insaisissable voisine fait irruption, apparaît comme un symptôme du couple en déréliction. L'absurdité du récit de Jenny, totalement hors contexte et qui surprend très clairement Claire et Christopher, cristallise toutes les anomalies qui ont pu commencer à apparaître au sein du couple depuis le début de la pièce. Successivement, des événements vont en effet venir altérer l'univers très aseptisé de ces personnages. Crimp pousse la fiction aux frontières du réel et laisse affleurer des visions de ce que Claire est en fait en train d'écrire. C'est ce qu'on découvre au fur et à mesure. Et Crimp met en effet en scène le processus d'écriture en train de se faire, afin de poser la question de l'emprise de l'artiste sur sa vie et sur sa perception du réel. Et donc évidemment, tel théâtre se révèle compliqué à mettre en scène pour en restituer toute la profondeur, toutes les couches, si j'ose dire. Et cette scénographie très épurée, assez abstraite, qui figure l'espace mental des personnages et qui donne évidemment une très grande liberté d'imagination au spectateur, a aussi, pour moi, en tout cas, a eu pour moi des limites. En effet, cette trop grande froideur de la scénographie et en partie du jeu des acteurs n'a pas permis que je sois touchée.
T'étais pas en empathie avec.
Non, je suis restée très extérieure en fait. J'ai constaté de manière.
Tu as disséqué de manière clinique.
Voilà, c'est ça. J'ai constaté de manière plus analytique que sensible les qualités du spectacle, parce qu'il y a vraiment, c'est une proposition très intéressante. Mais voilà, moi j'ai analysé ça de manière plus cérébrale que sensitive. Et on peut nier que la troupe réussit à instaurer une véritable atmosphère oscillant constamment entre banalité quotidienne et absurdité totale. Et ça accueille le spectateur et ça ne le lâche pas pendant toute la durée du spectacle.
Xavier, cérébral ou sensitif ?
Plutôt cérébral, mais dans cette mise en scène, parce que je pense que Martin Krim peut aussi être très sensitif. C'est un peu en ce moment la période Martin Krim, parce que la semaine dernière, on parlait dans La République du Bonheur à Chaillot, mis en scène par Marcel Alfonso.
Il est venu même au studio Théâtre de Vitry.
Tout à fait, il est venu, ce qui est en soi est une bonne chose, parce que c'est de mon point de vue un dramaturge important. Donc c'est un dramaturge britannique. Et pendant la mise en scène de la ville, je me suis interrogé, vu que j'avais à l'esprit les mises en scène de Marcel Ifonzobo, et donc sur un texte de crime pour la première fois que j'avais découvert la semaine précédente, et je me suis rendu compte que finalement la mise en scène de Rémi Barchet était quelque chose de très personnel, quand j'ai compris à quel point le théâtre des Lucioles en aurait fait quelque chose de radicalement différent. Et oui, c'est quelque chose de très clinique dans sa forme, avec ce décor très blanc, cette façon très tranchée pour les comédiens de représenter les différents caractères qui nous sont présentés. Et pourtant, mine de rien, cette petite angoisse un peu sourde que l'on ressent pendant pratiquement toute la durée de la représentation, eh bien ça, c'est du ressenti. Et c'est pas du ressenti qui est si facile à obtenir en le faisant avec des petites touches, mine de rien. Donc moi, je pense que c'est plutôt une réussite, même si c'est pas un grand spectacle. Je pense que...
Très bien, vous pouvez faire une opinion au Théâtre de la Colline jusqu'au 21 décembre. C'est déjà la fin de cette émission. Je vois trois gaillards, les gaillards de Ganzai, qui vont nous dire de quoi ils vont parler ce soir, ou faire entendre plutôt.
Écoutez, j'en ai absolument aucune idée.
Non, comme d'habitude, c'est vraiment passerelle est toujours aussi réussie.
Je vois vos lèvres qui parlent, je n'ai pas de casque, ça aussi c'est comme d'habitude. Sauf qu'on se retrouve dans quelques instants pour le Gonzaï Club avec quelques nouveautés et plein de vieilleries.
Magnifique. Je rappelle que ce soir nous avons reçu Guillaume Clessel pour Un captif amoureux. C'est au Théâtre de l'Étoile du Nord jusqu'au 13 décembre. Nous avons parlé de You Are My Destiny de Angelica Liddle. Au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 14 décembre, Du goût du faux et autres chansons de Jeanne Candel. Au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 13 décembre et de la Ville de Martin Krip dans une mise en scène de Rémi Barchet. Au Théâtre de la Colline jusqu'au 21 décembre. Une émission préparée par Xavier Henry avec la complicité de Christine Armanger et de Margot Cavalier et réalisée par Nicolas Laurenceau. Merci à tous.